Bonjour à tous et à toutes. Vous vous en rappelez sûrement, le 16 mars dernier à la télévision, Emmanuel Macron avait martelé « Nous sommes en guerre ». Faisant écho à cela, un certain nombre de comparaisons ont été faites sur les rapports entre l'État et l'économie dans la crise du coronavirus et une économie de guerre. Par exemple, le biographe de Keynes, Robert Skidelsky, a rappelé que Keynes analysait dans l'économie de guerre un excès de la demande par rapport à l'offre, qu'on aurait retrouvé pendant la première vague de l'épidémie. En effet, pendant les premiers confinements, la production et la distribution des marchandises étaient en partie interrompues, tandis que les revenus distribués ne chutaient pas dans la même proportion. On a donc dans un premier temps une demande supérieure à l'offre. Mais l'économiste marxiste Ernest Mandel associait l'économie de guerre à quelque chose de plus profond et plus structurel, c'est-à-dire une modification importante dans la répartition des ressources productives entre différents secteurs de l'économie. Il découpe l'économie en trois secteurs. Premier secteur, secteur 1, le secteur des biens de production, donc les machines-outils, les matières premières, etc. Secteur 2, deuxième secteur, le secteur des biens de consommation, l'agroalimentaire par exemple, le textile, l'automobile, etc. Troisième secteur, secteur 3, le secteur des biens de destruction, donc de l'industrie de l'armement principalement. Selon Ernest Mandel, en économie de guerre, le secteur des biens de production, donc le secteur 1, et le secteur des biens de consommation, donc le secteur 2, transfèrent une grande partie de leurs profits et de leur production dans le secteur 3, dit des biens de destruction. Par exemple, en Allemagne, entre 1936 et 1944, il observe une chute d'un sixième de la part des industries des biens de consommation dans la valeur du produit industriel total de l'Allemagne, tandis que la part des industries de construction métallique comprenant la production de biens de destruction augmente d'un dixième. Alors, d'une part, dans l'économie de guerre, la consommation ordinaire de la population est restreinte à travers un rationnement, donc on donne des tickets de rationnement avec lesquels on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut, mais une quantité limitée de produits, en fait pour conserver le plus de ressources possible, comme par exemple la nourriture, pour l'armée. Et d'autre part, une partie de la production de matières premières et de machines est destinée à la production de munitions et armes destinées à la destruction. Étant donné que la production n'est donc pas tournée vers la reproduction normale de l'accumulation du capital, avec au bout de chaque cycle une productivité et une valeur globale plus élevées, ce que Marx appelait la reproduction élargie, Mandel appelle cette situation d'économie de guerre la reproduction rétrécie. Il semble évident que de telles modifications dans la répartition des ressources productives n'ont pas eu lieu lors de la crise du coronavirus. L'État français, par exemple, n'a pas réorienté massivement la production nationale au service de la production de produits sanitaires, de respirateurs, de tests, du recrutement de personnel soignant, etc. Même l'alliance entre Schneider Electric, Air Liquide, PSA et Valeo pour produire 10 000 respirateurs pendant le premier confinement a été un véritable fiasco, puisque 8 500 d'entre eux étaient un modèle inadapté à l'usage en service de réanimation. Une véritable réorientation aurait nécessité ce transfert des secteurs entre guillemets normaux de l'économie vers l'industrie de la santé et l'hôpital public. Cette absence de réorientation vient du fait que les grands groupes capitalistes privilégient leur intérêt à court terme au détriment de la lutte contre le coronavirus. En attendant le vaccin, les vagues de l'épidémie se répètent alors dans l'impréparation totale, et l'État fait peser la gestion de la crise sur la restriction des loisirs et des relations interindividuelles. Tout comme ils l'ont fait pour les deux guerres mondiales, les États vont alors probablement devoir assurer un rôle beaucoup plus important que d'habitude pour gérer les crises sanitaires, puisque les capitalistes ne vont pas d'eux-mêmes réaménager leur appareil productif. En économie de guerre, l'État a dû par exemple intervenir massivement pour inciter les capitalistes à réorienter leur production vers l'armement. Voyons ce que ça donne quand on compare les niveaux d'investissement public aux États-Unis. L'investissement public aux États-Unis est en effet passé d'environ 10% du PIB dans les années 30 à une moyenne de 40% du PIB de 1942 à 1945. Aujourd'hui, les dépenses budgétaires de relance face à la crise du coronavirus ne représentent aux États-Unis que 13,2% du PIB, alors même que l'investissement public fédéral des États-Unis, dépenses militaires comprises, ne représentait encore en 2018 que 2,5% du PIB. Durant la Seconde Guerre mondiale, les investissements publics de l'État fédéral consistaient principalement en des dispositifs de subvention, de garantie de prêt et de coordination de la demande à la place des entreprises, notamment la garantie de leurs débouchés, de manière que l'État prenne la charge du risque qui faisait obstacle à l'extension des capacités productives de l'industrie militaire. Le coût du capital était pris en charge par l'État, qui le finançait aussi en partie par un prélèvement sur les revenus des salariés. Plus précisément, l'investissement public consistait à prendre en charge une partie de l'investissement des entreprises qui reste en fait pour la plupart entre les mains de leurs propriétaires. Un parallèle peut alors être fait avec les mesures prises par les États pendant le confinement, mais cela n'a rien à voir en termes d'ampleur. Mais à toute bifurcation historique, ses formes institutionnelles. Il est probable que la répétition des pandémies qui menacent l'humanité et l'essoufflement des perspectives de croissance et de productivité débouche à terme sur différentes formes de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme d'État, où l'État assume pleinement son rôle de capitaliste collectif, entre guillemets, c'est-à-dire un organe qui pense et agit à long terme pour le compte des multiples capitalistes isolés et en concurrence entre eux, et coordonne plus directement la production, tout en maintenant la propriété privée des moyens de production, à la manière par exemple du parti État, entre guillemets, communiste chinois, dont le 20e congrès vient de décider un contrôle encore plus étroit sur les entreprises privées et les investissements. En fait, derrière l'appellation de communisme se cache en Chine une forme de capitalisme d'État. Mais ces évolutions ne changeraient évidemment pas grand-chose à la crise environnementale et à la déforestation, qui est en fait à la source de la transmission de nouveaux virus à l'humain. Pour pouvoir affronter la crise environnementale, il nous faudra une économie démocratiquement planifiée, non pas sous la houlette du nouveau commissariat au plan mis en place récemment par Macron, mais où la majorité de la population décide à la place de la minorité de milliardaires de tout ce qui est produit, en quelle quantité et comment, en quelque sorte, une économie de guerre au service de la transition écologique.